Radio Prague, les informations.
Les syndicats de la santé publique manifesteront mardi à Prague contre les réformes gouvernementales. Moscou autorise les importations de légumes tchèques à nouveau. Et puis décès de Jaroslav Jiříček, une légende du hockey tchèque. Une manifestation devant le siège pragois du ministère de la Santé et une marche de protestation dans le centre de Prague seront organisées ce mardi par les syndicats du secteur de la santé publique. Ils protestent contre la réforme du système de santé prévue par le gouvernement. Les lois relatives à cette réforme seront discutées le même jour à la Chambre des députés. Les syndicats critiquent notamment l'augmentation des frais d'hospitalisation à la charge du patient. Leur protestation est soutenue par de nombreuses associations qui représentent handicapés, patients ou encore seniors. La Russie a autorisé l'importation des légumes en provenance de République tchèque et de Grèce, portant à 6 désormais le nombre de pays n'étant plus sujet à l'embargo imposé début juin en raison de la bactérie E. coli. Depuis ce lundi, sont autorisées les importations et la vente sur le territoire russe des légumes produits en République tchèque sur la base de certificats garantissant leur innocuité. Moscou avait imposé le 2 juin un embargo sur les importations de tous les légumes frais européens du fait de l'épidémie causée par la bactérie en Allemagne, une mesure qui avait aussitôt suscité des protestations de l'Union européenne. L'ex-président tchèque Václav Havel ne s'est pas encore rétabli de l'inflammation des voies respiratoires dont il a été atteint en mars dernier. D'après les informations fournies par sa secrétaire, Václav Havel se sent très fatigué, il suit un traitement à domicile et ne participe pas aux événements publics. Ses ennuis de santé ont empêché l'ancien président et son épouse Dagmar d'assister la semaine dernière au festival du film de Carlo Vivari. Après la série d'explosions mortelles qui ont ravagé ce lundi une base militaire et une centrale électrique sur l'île de Chypre, le ministre chypriote des Affaires étrangères, Markos Kyprianou, a écourté sa visite en République tchèque pour regagner son pays. L'accident a eu lieu dans un local du camp militaire, proche de la ville côtière de Larnaca, où étaient entreposés 98 conteneurs de poudre à canon qui faisaient partie d'une cargaison d'armes saisie en 2009 dans l'est de la Méditerranée sur un navire en provenance d'Iran et à destination de la Syrie. Les orages se sont multipliés ces derniers jours en République tchèque. Depuis samedi, l'Institut hydrométéorologique tchèque a enregistré 41 000 éclairs, un peu plus même que 41 000. Selon certaines prévisions, pas encore confirmées, il pourrait encore y avoir de violents orages dans la journée ou la nuit de mercredi prochain. Et puis je vous le disais en titre, Jaroslav Jiříček est mort ce jeudi à l'âge de 71 ans dans un accident d'avion, dans l'accident de l'avion qu'il pilotait. Les causes du crash près de la ville de Brno ne sont pas encore connues. Jaroslav Jiříček était le premier joueur tchèque à avoir joué en NHL. Il faisait également partie de l'équipe tchécoslovaque lors du match historique remporté contre l'URSS en 1969. Un mot sur la météo dont on parlait tout à l'heure et un ciel dégagé et des températures maximales autour de 27 degrés. Ce sont les prévisions pour mardi 12 juillet, jour de fête des Božek en République tchèque. Le bulletin d'info vous était présenté par Alexis Rosenzweig et dans une poignée de secondes, vous retrouvez Magdalena Hrozinkova pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Prague. Au menu de ce magazine d'actualité, le projet de reconstruction de la principale autoroute tchèque D1 ouverte il y a tout juste 40 ans. Avant de passer à l'actualité sportive, nous reviendrons sur le palmarès du 46e festival du film de Carlo Vivari qui s'est achevé samedi dernier. Pascal Rabaté a reçu le prix de la meilleure réalisation pour son film « Ni à vendre ni à louer ». Les détails dans quelques minutes. La plus longue et la plus ancienne autoroute tchèque est la D1 qui relie Prague à Brno et dont le premier tronçon long de 21 km a été ouvert le 12 juillet 1971 est aujourd'hui dans un état déplorable. L'année prochaine devrait débuter la rénovation complète de ces chaussées qui donnent d'ores et déjà la chair de poule aux chauffeurs comme à la direction des routes, sans oublier les habitants des communes concernées par les futures modifications de circulation. À noter qu'avec plus de 90 000 voitures qui passent chaque jour toujours la D1 et l'autoroute la plus fréquentée du pays. Sa construction a commencé dès 1939, à l'époque où les autorités planifiaient de relier Prague à la Russie subcarpatique. Interrompu suite à l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, les travaux n'ont finalement repris qu'en septembre 1967. L'autoroute telle que l'on l'utilise aujourd'hui a donc été construite selon le projet élaboré dans les années 1930. Depuis l'ouverture du premier tronçon il y a 40 ans, l'épine dorsale du réseau routier tchèque est pratiquement restée inchangée. Or, les paramètres techniques de l'autoroute ne répondent plus à la situation actuelle. Sa capacité est insuffisante et l'état des chaussées alarmant. Les chauffeurs se sont déjà plus ou moins habitués aux bouchons, aux tremblements et vibrations de leurs véhicules dus aux imperfections de la chaussée, notamment à proximité des villes de Jihlava et de Humpolets dans la région de la Vysotchina. Pourtant, le dernier incident en date, une déformation haute de 10 cm qui s'était créée sur l'autoroute fin juin et qui a endommagé une dizaine de voitures leur a fait peur. Au total, 160 km de chaussée entre les communes de Meloševice en Bohême centrale et Kivalka en Moravie du Nord devraient donc être réparées. Plus de détails avec Jiří Švorc qui gère la direction des routes et autoroutes tchèques.
Cinq premiers tronçons de l'autoroute devraient être rénovés dès l'année prochaine. La préparation des travaux est compliquée, non seulement pour des raisons techniques, mais aussi du fait des relations entre l'État et les propriétaires des terrains concernés qui ne sont pas réglées. De nombreux ponts qui sont dans un très mauvais état devront également être rénovés. Enfin, nous voulons élargir l'autoroute, ce qui est également compliqué parce que nous devons respecter l'itinéraire de l'autoroute.
Un élargissement qui ne sera toutefois que symbolique, faute de moyens financiers, deux voies dans chaque direction seront conservées. Le budget de ce projet de longue haleine est évalué à plus de 20 milliards de couronnes, Jiří Švorc.
Même si nous n'étions pas limités par les moyens financiers, les travaux dureraient au moins 4 ans. Ce qui pose problème, ce n'est pas seulement la question de la rénovation en tant que telle, mais aussi tout le système de déviation qu'il faudra mettre en place. Nous ne pouvons pas fermer l'autoroute parce qu'il est impossible de déplacer le trafic ailleurs.
Cette opération qui nécessitera une limitation considérable du trafic dans les zones de chantier suscite déjà des inquiétudes. Tout d'abord, elle devra se dérouler sous surveillance policière, les Tchèques ayant la réputation d'être des chauffeurs indisciplinés. Les habitants des régions de Hradec Králové, de Litomyšl et de Olomouc paniquent à l'idée de voir des camions traverser quotidiennement leur commune. Enfin, la rénovation de l'autoroute D1 compliquera sérieusement les déplacements en autobus entre la Bohême et la Moravie. Une occasion pour les chemins de fer tchèques d'améliorer leur offre et leurs services. Le 46e Festival international du film de Karlovy Vary s'est achevé samedi soir par la cérémonie de remise des prix, tour d'horizon du palmarès 2011 avec Anna Kubishta.
Et c'est le film israélien Restoration du réalisateur Joseph Madmoni qui a remporté le Globe de Cristal du meilleur film. Long métrage psychologique qui étudie différents personnages évoluant dans la société israélienne d'aujourd'hui, le film s'intéresse plus particulièrement au destin du propriétaire d'un atelier de restauration de meubles anciens après la mort de son associé. Le prix spécial du jury a pour sa part été décerné au film Gypsy du réalisateur slovaque Martin Šulík. Centré sur le personnage d'un jeune Rome dans un village défavorisé de l'est de la Slovaquie, confronté au racisme environnant, mais aussi aux règles parfois strictes de sa propre communauté, le film a été tourné avec des acteurs amateurs et en langue romani. Martin Šulík, après la cérémonie de remise des prix.
J'espère que ce prix va susciter un peu d'intérêt pour le film et que les gens auront envie de le voir. C'est le plus important.
A noter d'ailleurs que le jeune acteur du film Gypsy, Yann Mijigar, a reçu une mention spéciale pour son interprétation du rôle principal. Parmi les films dans la compétition officielle, vous le savez, il y avait le long métrage français « Ni à vendre ni à louer » de Pascal Rabaté, auteur de bande dessinée qui ne rechigne pas de temps à autre à passer derrière la caméra. Son film a reçu le prix du meilleur réalisateur. Pascal Rabaté, de passage à Carlevé-Varier au début du festival, nous avait confié à cette occasion comment on dirigeait des acteurs sans dialogue, puisque tout le film s'articule plus autour de sons et de mimiques scéniques.
La chose a été, c'est-à-dire qu'elle m'a sauté aux yeux très rapidement. C'est la première journée, je me suis aperçu que on avait, en supprimant l'oralité, finalement, on amenait le spectateur à regarder plus ce qui se passait dans le cadre, et que fallait freiner un peu les acteurs, parce que eux pensaient, comme moi, qu'en supprimant une source d'information, il fallait compenser par un surjeu ou par un jeu un petit peu plus marqué. Et il s'avère que ça a été l'inverse, c'est-à-dire que dans le cadre, c'est ce que je disais, Tati aurait fait un film, il a fait Les Vacances de Monsieur Hulot, il aurait repris le scénario, il aurait toujours été 2 mètres plus loin que moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très très éloigné du corps, est très très éloigné des expressions. Il ne joue pas sur le visage, il joue sur un corps qui se déplace. On avait décidé de partir quand même, d'ouvrir un peu le champ des possibles en faisant à la fois des plans rapprochés, des plans moyens, des plans larges. Mais du coup, sur tout ce qui est plan rapproché, on s'aperçoit que la moindre inflexion du visage prend des proportions énormes, parce que justement la parole ne va pas nous enlever une partie de cette attention-là. Et du coup, c'est vrai qu'avec les acteurs, on a déstabilisé plus d'un pendant les 2 premiers jours. Et puis, au vu des rushs, ils se sont dit, mais t'as raison, il faut quand même qu'on freine un peu le jeu et qu'on soit, non pas dans l'économie, mais dans une certaine retenue.
Pour la suite du palmarès du 46e Festival international du film de Carlevé-Varier, à noter que l'acteur américain David Morse a été distingué pour son rôle dans le film The Collaborator, et l'actrice allemande Stine Fischer Christensen pour son rôle dans Cracks in the Shell. C'est un film macédonien, Punks Not Dead, du réalisateur Vladimir Blajewski, qui sort vainqueur de la section spéciale de Carlevé-Varier, consacrée aux films d'Europe centrale et de l'Est, et des Balkans visiblement. Le prix du public revient quant à lui au film La famille de Nikki, qui retrace le destin des enfants juifs de Tchécoslovaquie sauvés des nazis par des convois de train organisés par un Britannique, Nicholas Winton.
C'était Faits événements en République tchèque. On passe à l'actualité sportive. En mai dernier, la télévision tchèque a lancé une enquête devant permettre d'élire les 20 plus grands moments du sport tchèque de ces 20 dernières années. Près de 80 000 personnes ont voté sur le site internet de la télévision publique. Sans surprise, la médaille d'or remportée par l'équipe de République tchèque de hockey sur glace aux Jeux olympiques de Nagano en 1998 a recueilli le plus de suffrages. Le succès de Dominik Hašek et Jaromír Jágr et de leurs coéquipiers dans ce qui était alors considéré comme le tournoi du siècle en raison de la participation pour la première fois des meilleurs joueurs de la prestigieuse ligue nord-américaine NHL aux Jeux olympiques, a devancé les 2 titres olympiques de la patineuse de vitesse Martina Sablikova aux Jeux de Vancouver en 2010 et le fameux triplé doré désignant les 3 victoires successives toujours de l'équipe nationale de hockey sur glace aux championnats du monde entre 1999 et 2001. Durant cet été, nous allons revenir sur quelques-uns de ces plus grands succès qu'a vécu le sport tchèque ces 20 dernières années. Et pour cette première fois, retour avec Alexis Rosenzweig sur un autre triplé doré, celui du lanceur de javelot Jan Železný aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, d'Atlanta en 1996 et de Sydney en 2000.
Sport en République tchèque.
Avec Emil Zátopek, Jan Železný est sans doute le plus grand athlète tchèque du XXe siècle. Les noms du coureur de fond comme du lanceur de javelot restent gravés dans les mémoires pour avoir été, l'un comme l'autre, auteur d'un triplé olympique sans précédent et inégalé depuis. Tandis que Zátopek, on le sait, a remporté les 5000, 10000 mètres et le marathon lors des mêmes Jeux d'Helsinki, c'était en 1952, Jan Železný est, lui, resté au sommet de sa discipline l'espace de 3 Olympiades. Cela sans tenir compte de sa médaille d'argent décrochée aux Jeux de Séoul en 1988. Pourtant, celui qui fut également sacré 3 fois champion du monde, en 93, 95 et 2001, et reste le détenteur du record du monde 98,48 m, celui qui fut donc sacré 3 fois champion du monde également, ne possédait pas, a priori, toutes les caractéristiques requises dans les aires de lancer de javelot des grands championnats. Avec un poids de forme inférieur à 80 kg, Jan Železný a compté durant toute sa carrière parmi les plus légers de l'élite mondiale. Né prématurément à 7 mois, le Tchèque ne pesait, il est vrai, qu'un peu plus de 2 kg et avait des tendons plus courts au pied gauche au moment de sa naissance, c'était en 1966. Enfant souvent malade et blessé, mais déjà sportif dans l'âme, Jan Železný apprit alors à lutter contre des éléments souvent défavorables. Cet esprit de compétiteur rapidement développé l'aida plus tard dans sa carrière. Le petit Železný avait alors déjà des rêves olympiques.
Champion olympique, je ne sais pas. Par contre, j'ai su très tôt que je ferais de l'athlétisme. Mon père et ma mère étaient lanceurs de javelot, j'étais donc prédestiné à cette discipline. Vers l'âge de 15-16 ans, je me suis dit que je voudrais être un athlète de niveau mondial et remporter un jour une médaille dans une grande compétition. Avant ça, j'avais commencé à jouer au hockey, mais des problèmes de santé m'ont empêché de continuer. Puis, je me suis mis au handball tout en faisant de l'athlétisme parallèlement. Ce sont les 3 sports que j'aime le plus.
Quatrième au championnat d'Europe junior en 85, Jan Železný signe sa première performance de choix chez les seniors 2 ans plus tard en décrochant la médaille de bronze aux mondiaux de Rome. Et en 88, aux Jeux de Séoul, il monte une marche encore plus haut sur la deuxième, battue de justesse dans la dernière série de lancers. Malgré des blessures au dos qui l'handicapent déjà et le poursuivront jusqu'à la fin de sa carrière, sa progression aboutit à l'or de Barcelone en 92, la première médaille d'or de son triplé olympique.
Barcelone a constitué un tournant. Cette première médaille d'or a été exceptionnelle dans la mesure où j'ai senti que je ne pouvais pas perdre ce concours. J'avais le sentiment d'être imbattable. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment cela est possible, et je n'ai plus jamais ressenti cela ensuite de toute ma carrière. Mais le fait est qu'à Barcelone, je me suis rendu au stade en sachant que j'allais gagner. J'ai pris conscience de ma victoire 1 ou 2 jours après. Ce sont des moments exceptionnels qui n'appartiennent qu'au vainqueur. Je n'oublierai jamais l'hymne joué en mon honneur. C'était tellement exceptionnel que je me suis dit qu'il fallait que je gagne encore de nombreuses fois.
Cette soif de victoire, Jan Železný n'aura alors de cesse de l'assouvir dans les années suivant Barcelone. Après 2 titres de champion du monde à Stuttgart et à Göteborg en 93 et en 95, le Tchèque est sacré champion olympique pour la 2e fois à Atlanta en 96, malgré des lancers tous inférieurs à 90 mètres. Loin donc de son record du monde de 98,48 mètres établi quelques mois plus tôt à Iéna en Allemagne. Un record qui n'a jamais été sérieusement menacé, même depuis la retraite de Jan Železný, même si celui espère qu'il le sera prochainement, il explique pourquoi.
Tout peut être battu, amélioré, ce record sera aussi battu un jour, je ne sais pas quand, mais il le sera. Mais être détenteur du record du monde est un sentiment agréable. Vous vous dites que personne n'a jamais fait mieux que vous. Ça ne veut pas dire que j'ai peur qu'il soit battu. Mon rêve est que ce soit un Tchèque qui le batte. C'est pourquoi j'essaie de trouver des jeunes talentueux pour que l'un d'entre eux y parvienne un jour. Ce n'est pas facile et ça prend du temps. Un lanceur de javelot est au sommet vers 28-30 ans et puis il faut que toutes les conditions soient réunies et ça ne dépend pas de vous. Mais je crois que c'est possible et je fais tout pour que ce rêve se réalise.
Les rêves qui se réalisent, Jan Železný connaît. Le 23 septembre 2000, à Sydney, le Tchèque s'inscrit définitivement comme le meilleur lanceur de javelot de tous les temps.
Sidney, c'est un autre rêve qui se réalise car aucun autre lanceur de javelot n'avait jamais remporté les Jeux Olympiques trois fois à la suite. C'est d'autant plus beau pour moi que avant Sidney, j'ai souffert d'une grave blessure à l'épaule et il m'a fallu repartir de zéro. Mais là-bas, ni mon épaule ni mon dos ne m'ont gêné pendant le concours, même si je me suis finalement quand même blessé à l'épaule. Les blessures m'ont accompagné pendant toute ma carrière, mais je considère que tant que l'on peut respirer et marcher normalement, le sport n'est qu'un complément et un chemin de vie. Même si j'avais dû arrêter après Sydney et cette blessure à l'épaule, j'aurais pu dire que le destin m'a donné bien plus que ce que j'en attendais.
Donner, c'est désormais ce que fait Jan Železný. Reconverti entraîneur depuis sa retraite en 2006, il s'occupe actuellement au Dukla Prague de la championne olympique en titre, Barbora Špotáková, ainsi que des prometteurs Vítězslav Veselý et Peter Friedrich, dont Jan Železný espère qu'ils le dépasseront un jour.
C'est la fin du programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková, réalisation Irena Viernochová et Pavel Kahoun.